Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, bonjour, messieurs. Tiens, je vais commencer avec Jean-François Lisée. Jean-François, c'est fini pour le cours d'éthique et de culture religieuse. Il est très tôt ce matin, mais j'aurais presque le goût d'ouvrir une bouteille de champagne. Et on va remplacer ça par un cours de citoyenneté. Corrige-moi si je fais erreur, Jean-François, mais il me semble que c'était une de tes propositions lorsque tu étais chef du PQ.
Absolument. Depuis, en fait, 2015, je propose ça, de remplacer par un cours sur la citoyenneté québécoise. Là, M. Legault a dit que ce serait culture et citoyenneté québécoise. Ben très bien. Je pense que c'est important. Il faut se souvenir que ce cours remplaçait la période pastorale qu'on a connue, ceux les plus vieux d'entre nous. Et ce qui fait que on est le seul endroit au monde où, pendant toute la scolarité, donc de la première année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire, il y avait chaque semaine une heure réservée à éthique et religion. Ça, c'est massif, ça, en termes de temps d'école. La question religieuse est importante, mais elle n'est pas, c'est pas nécessaire de passer tant de temps là-dessus. Et moi, j'ai toujours pensé que la religion devrait être traitée dans les cours d'histoire, parce que lorsqu'on comprend le développement des religions dans l'histoire du monde, ben là, on voit son importance, mais aussi, les bons côtés et les mauvais côtés des religions. Pour ce qui est de la citoyenneté, c'est pas seulement... j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans le cours, parce que on disait, il y a toutes sortes d'aspects à la citoyenneté. Il y a vivre en société, la démocratie, le système de justice, aussi la connaissance de base de l'économie, le crédit. C'est aussi dire à nos jeunes comment ne pas être embrigadé dans des gangs. C'est aussi la question de non seulement l'aspect aussi la diversité raciale et religieuse doit être abordée là-dedans aussi.
Est-ce que Jean-François, est-ce que tu t'intégrerais les cours d'éducation sexuelle là-dedans?
On pourrait aussi le faire, mais c'est pas absolument nécessaire que ça soit là. Ça peut être différencié, mais c'est très large. Maintenant, il dit culture québécoise. Alors, j'ai hâte de voir quelle part il va donner à la culture. Moi, je pense aussi que on ne devrait pas pouvoir finir son secondaire au Québec sans connaître les canons de la culture québécoise, que ce soit en littérature, en chanson, en théâtre. Alors, bon, je trouve ça intéressant.
Oui, en tout cas, moi, je détestais tellement le cours d'éthique et de culture religieuse parce qu'on ne développait pas le sens critique des jeunes envers les religions. Thomas, je veux te parler de Jason Kenney parce que j'ai lu un texte dans le National Post aujourd'hui qui posait une excellente question concernant le référendum en Alberta sur la péréquation. Alors, le chroniqueur du National Post disait c'est un arme à double tranchant pour Monsieur Kenney. Parce que si les gens disent oui, on veut effectivement retirer la péréquation de la Constitution et qu'il ne peut pas livrer la marchandise, tout ce que ça va faire, c'est que ça va apporter de l'eau au moulin aux séparatistes albertains en disant, regardons, on n'a pas notre place. Et souvent, Thomas, tu me dis, que c'est un peu la stratégie de Legault de montrer que la loi 21 n'est pas soluble dans la Fédération canadienne et de dire, regardez aux Québécois, regardez, c'est la preuve qu'il faut partir. Alors là, est-ce que c'est ce qui va arriver avec Jason Kenney? S'il livre pas la marchandise, c'est bien beau de dire on est contre la péréquation, mais s'il réussit pas à convaincre le premier ministre de l'enlever de la Constitution, les séparatistes vont être bien contents.
Ben oui, puis il n'est pas question, évidemment, qu'il obtienne une modification constitutionnelle, surtout pas sur la base de ce qu'il vient de faire là, mais les résultats ne seront pas connus pour encore un couple de jours, finalement, mais ça ne changera rien. Il ne va pas avec, comme on dit en anglais, a straight face, là. Il ne pourrait pas, en restant sérieux, prétendre qu'il a un mandat pour aller modifier la Constitution canadienne en négociant avec Ottawa sur la base de ça. Mais tout ça, c'est du théâtre politique. Kenney est un politicien médiocre, avec des idées bien campées à droite, qui a réussi quand même un bon coup. Il a réussi à réunir la droite, c'est-à-dire le Wild Rose Party, un parti vraiment campé très à droite en Alberta, avec du bon monde, mais avec des idées vraiment économiques, sociales, environnementales, vraiment à droite, et avec le plus classique Conservative Party, qui était devenu, pour eux autres, en quelque sorte, libéral mou. Tu sais, c'était, oh, ils essayaient de plaire à tout le monde, ils n'étaient pas assez fermes. Là, Kenney a réussi un coup magistral. Il a dit, si je quitte Ottawa, c'est pour m'en aller dans ma province et unir la droite. Il l'a fait. Maintenant, il a été tellement piètre comme gestionnaire, parce que tu ne peux pas prendre une idéologie et l'utiliser contre une pandémie. Le résultat en Alberta est catastrophique. Et c'est la faute de Jason Kenney. Donc, il cherche par tous les moyens de changer la chaîne, parce que lui aussi, il va avoir une élection qu'il va être obligé d'aller défendre et expliquer ses trucs dans une couple d'années. Alors, Kenney va essayer ça, mais ça va pas marcher pour Saint-Saëns. Il n'y a pas cette frustration-là. La vraie bataille Ottawa-Alberta va venir lorsque Trudeau va essayer, à la suite de la réunion à Glasgow, en Écosse, la semaine prochaine, Trudeau va essayer de convaincre tout le monde qu'il est cette fois-ci sérieux en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, un vrai programme pour lutter contre les changements climatiques. Et ça va être la guerre ouverte avec l'Alberta, parce que selon Bloomberg, toutes les analyses du monde, l'Agence énergétique internationale, la semaine dernière, il faut que ça reste dans le sol. C'est la seule manière de sauver la planète. Et ça, c'est pas des extrémistes qui disent ça. C'est des scientifiques les plus sérieux, les plus respectés de la planète Terre qui sont en train de dire, wow, time out. Hey, Richard, je l'ai écrit dans mon papier vendredi dernier dans le Journal de Montréal. Pendant la première année de Joe Biden, tu sais, celui, olé, olé, qui allait, lui, enfin avoir un vrai plan pour lutter contre les changements climatiques, une augmentation de 23% dans la quantité de charbon brûlé pour produire de l'électricité par rapport à la dernière année de l'horreur de Donald Trump, qui, lui, était vraiment mauvais pour l'environnement. Un bon gars avec sa gang arrive au pouvoir à Washington. Augmentation 23% du charbon aux États-Unis. 700 livres de charbon pour chaque femme, homme et enfant aux États-Unis.
Je vais poser la question d'ailleurs à Jean-François Lisée concernant l'environnement, parce que bon, on voit qu'il y a très très peu de pays qui vont pouvoir respecter leurs objectifs là en réduction de gaz à effet de serre. Il y a un texte important dans Le Devoir aujourd'hui là-dessus. On sait, Jean-François, ça n'a jamais été une question de l'urne. On dirait que ça ne touche pas les gens, l'environnement. Est-ce que tu penses que il va y avoir une prise de conscience, entre autres avec la COVID, on a vu que la société internationale, la communauté internationale, on peut se serrer les coudes pour affronter un problème qui nous touche tous. Est-ce que tu penses que ça peut changer les mentalités?
Ben, les mentalités changent et bougent lentement. Je veux dire, il est clair que la conscience environnementale est plus forte maintenant qu'elle ne l'était il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, en particulier chez les jeunes. Mais l'autre conscience qui est en train de se développer, c'est la conclusion que finalement, on est cuit. Il y a maintenant plus grand-chose à faire pour empêcher des dérèglements climatiques majeurs. Et l'incapacité de modifier en profondeur notre utilisation des hydrocarbures, elle est devant nous. Et effectivement, Tom a raison, il y a une augmentation non seulement aux États-Unis, mais en Chine et en Europe, de l'utilisation du charbon, parce que Maintenant que, après la pandémie, l'économie reprend à plein régime, et comme il y a eu une réduction à certains endroits de la production, il y a une augmentation du coût, en plus, du pétrole et du gaz, qui pose des problèmes majeurs en ce moment en Europe. Ce qui fait que, on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont angoissés par l'avenir climatique, et ils n'ont pas tort de l'être, et qu'il y a des gens qui disent, peut-être que si on réussit à agir au cours des 10 prochaines années, on n'empêchera pas les catastrophes climatiques, on va empêcher que ça soit pire que pire. Le pire est certain, le pire que pire, on peut essayer encore de l'amortir. Alors, effectivement, est-ce que lorsqu'il y aura des on se rend compte que même aux États-Unis, où il y a beaucoup plus d'ouragans, il y a beaucoup plus d'inondations, puis les feux de forêt, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, je veux dire, ils sont constants. Ça n'empêche pas que le Congrès américain est incapable en ce moment d'avoir 50 sénateurs pour voter le plan Biden de réduction des émissions. C'est très décourageant.
On voit la vague arriver, puis on est encore sur la plage à faire des châteaux de sable, et pourtant c'est un tsunami. Ça arrive.
Oui, on se souvient des familles qui jouaient sur la plage lors des tsunamis, par exemple, en Thaïlande et tout ça. C'est une très belle image, Richard. Triste et terrifiante, mais c'est tout à fait l'image. Parce que le Canada est un des pires cancres de la classe. Ça m'a toujours fasciné. Si on regarde l'historique du Canada sur le protocole de Kyoto, on a signé avec Chrétien, et son ancien chef de cabinet, Eddie Goldenberg, a été transparent. Il a dit, on n'avait pas de plan. C'était pour galvaniser l'opinion publique. Donc, c'est pas grave si on n'a jamais rencontré nos obligations. Le Canada a eu un des pires bilans au monde. Harper, au moins, il avait l'honnêteté de dire que c'était un complot socialiste, l'accord de Kyoto. Complot socialiste, pour compléter la citation, complot socialiste pour sucer l'argent des pays riches. Fin de la citation, texto. Mais on était le premier pays à s'extraire du protocole de Kyoto. Jean-François a nommé plusieurs pays cancres. L'Australie et le Canada. Le Canada, premier pays à sortir de Kyoto. Australie, le deuxième. Australie vient d'augmenter massivement sa production et son utilisation de charbon. Puis après, il se lamente que la grande barrière de corail, 2000 km de long, est en train de mourir. C'est en train de mourir. Mais c'est le discours. Donc, la gauche est capable de s'émouvoir. Moi, j'étais dans la pièce, à Paris, en 2015, avec Justin Trudeau, nouveau premier ministre. Il met les bras très larges comme ça, devant les micros, il dit « Canada is back ». On retourne au Canada, quelques semaines à peine plus tard, il annonce que Canada is back avec le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Puis même ça, il n'était pas capable de le faire.
Stephen Harper sort de ce corps.
Le Canada est vraiment un des pires camps de la classe au monde.
Rapidement, Jean-François, le message lancé aux anglophones hier par François Legault.
Oui, alors c'est intéressant parce que effectivement, il a fait une partie de son discours d'ouverture en anglais et il y a un niveau d'anxiété chez les anglophones qui est très élevé. On a vu dans des sondages qu'il y a jusqu'à 82 % des anglo-québécois qui sont non seulement contre la loi 96, ce qui est normal, mais qui disent même que le français ne doit pas être la langue commune et la nation québécoise n'existe pas. Alors, ils sont vraiment crinqués en ce moment. Alors, je me suis dit, quand il s'est mis à parler en anglais, il va essayer de les calmer, mais il ne les a pas calmés. Qu'ils détestent entendre. C'est la vérité. Vous êtes la minorité la mieux protégée au Canada. Nous en sommes fiers. Puis si les francophones hors Québec avaient autant de droits et d'institutions que vous, ils seraient ravis. Bon, et tout est vrai là-dedans. J'ai été ministre responsable des Anglos, puis je peux dire que c'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. C'est pas une vérité qui leur plaît. Ils disent, nos institutions, on les a construites, on a payé nos impôts. On a très peur pour nos droits, et tu nous dis rien, tu sais. Ils auraient aimé qu'ils disent, on a entendu vos craintes, je tiens à vous rassurer sur ceci ou cela, tu sais. Je veux dire, il y avait des phrases sans conséquences graves, sans conséquences législatives qu'ils auraient pu prononcer. pour dire au moins qu'on vous écoute, puis on est très attentif. Mais non, il a dit arrêtez de vous plaindre. C'est ça qu'il a dit. Alors, ça va l'aider à gagner des comtés anglophones.
Thomas, une minute et demie, là, Dominique Anglade a dit qu'il manquait un peu de compassion envers les anglophones. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais moi, je pense que Dominique Anglade n'a pas dit quelque chose de radicalement différent que ce que Jean-François vient de dire. Tout est dans le ton. Et cette notion de toujours citer qu'il y aurait une communauté historique anglophone, voulant dire que si tu viens des États-Unis ou de Trinidad, t'en fais pas partie, même si tu es là depuis 40 ans. Et parlant de 40 ans, depuis bientôt 45 ans, on a la loi 101 qui dirige tous les immigrants, les enfants d'immigrants, vers l'école française. Le français est de facto la langue commune pour les commerces, les affaires et ainsi de suite. Donc, oui, les gens deviennent un peu capotés lorsque dans une loi 96, on s'en va chercher des droits garantis par la Constitution, juste ça, l'égalité anglais-français devant les tribunaux. Ici, comme au Manitoba, est-ce que je suis en train de dire qu'il y a autant d'hôpitaux puis d'ainsi de suite où on peut être bien servi en français au Manitoba qu'en anglais au Québec? Nope. Je suis pas en train de prétendre ça. Mais cette communauté-là et ma génération, ceux qui ont vraiment fait un effort, tendre la main, reconnaissance de la nation québécoise, on n'aura pas d'argument là-dessus. Donc, il faut vraiment regarder qu'il y a toute une génération qui se sent lésée lorsqu'encore une fois, François Legault, qui a deux pieds dans 1961 et pas dans 2021, lorsqu'il se bat contre la grosse maudite anglaise chez Eaton, hey, mon oncle François, les temps ont changé. La communauté la plus bilingue au monde, c'est des anglophones de la plus jeune génération. Arrête de fouetter un cheval mort. Tes histoires de la vieille époque, fini.
Et Thomas, j'aimerais ça faire un débat entre toi et Gilles Proulx. Oh là là, là-dessus.
J'en ai fait plein.
Ah, oui, mais on voit que les anglophones réagissent aujourd'hui. Première page de Gazette, là, ils n'ont pas l'air d'être très contents de la déclaration de M. Trudeau. Ils sont furieux.
Et c'est cette expression. Ben, écoute, moi, j'ai mon T-shirt qui a été fait pour faire de l'argent pour le Gazette Christmas Fund, le fonds de Noël pour les personnes moins fortunées que fait chaque année la Gazette. Aaron Rand de CJD a vendu des T-shirts avec Historic Anglo écrit dessus. J'en ai un. Je peux te le donner pour Noël, si tu veux.
Merci, Thomas.
Salut.
Bye. Merci, Thomas. Merci, Jean-François. Si vous voulez lire les textes de Jean-François, écoutez son excellent balado. N'oubliez pas, aller sur laboitealizée.com. Merci.